Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons rester ce soir aux États-Unis d'Amérique, puisque l'auteur qui va être l'auteur central de cette soirée est un auteur français, J'aime Sacré, mais qui a vécu et qui a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis, aux USA, et qui a publié America Solitude chez André Dimanche. C'est donc de J'aime Sacré dont nous allons parler tout à l'heure. Mais je voudrais commencer cette émission avec une chanson de Barbara, parce que pris par la multitude des choses qu'il nous faut annoncer, des publications, des événements, et bien souvent nous passons à côté d'événements essentiels, et c'est vrai que Barbara a marqué notre jeunesse, est une des grandes voix de femmes de ce siècle, de ce 20e siècle, et nous allons donc écouter « Un monsieur me suit dans la nuit ».
Une musique de Jacques Baisse. Un monsieur me suit dans la rue. J'étais une petite fille, du moins je le croyais. Je portais des espadrilles, j'avais encore mes jouets. Mais un jour dans la rue, en sortant de l'école, je vois un inconnu qui à mes pas se colle. Un monsieur me suit dans la rue. J'en avais rêvé bien souvent, et je suis d'avance tout émue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand on me suivrait dans la rue, je pensais que ce serait épatant. Quand on me suivrait dans la rue, ce n'était qu'un vieux dégoûtant. Le cœur a ses mystères, je me suis prise de passion pour un homme, un gangster, qu'a de la conversation. Mais quand je vais chez lui, je dois faire attention. Je sais qu'on le poursuit pour le mettre en prison. Je suis dans la rue, gros soulier qui marche en criant, pourvu qu'on ne m'ait pas reconnu. J'ai peur que ce soit deux agents, j'enfile des rues et des rues. Mon Dieu, ça devient inquiétant, tout le monde me suit dans la rue, que vais-je faire maintenant? Tombé malade dans un grand lit tout blanc, le cœur en marmelade, mon pauvre front brûlant. Un monsieur me demande, voulez-vous le bon Dieu? Moi, je préfère attendre des fois que j'irai mieux. Joie tout le monde qui me suit dans la rue. Les hommes saluent des moi, je l'aurais jamais cru que les femmes comme ceci, ni en passant. Qui me suit dans la rue, devant moi marchent deux enfants. On ne me suivra jamais plus dans la rue, car je m'en vais les pieds devant.
Voilà, je tenais ce soir à faire écouter cette voix qui nous a passionnés. Alors, les publications, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'aller vite parce que je voudrais donner du temps à la lecture de J'aime Sacré dans son recueil, cette somme de poésie, comme la dernière fois, la somme de poèmes que j'ai lu de ce poète américain objectiviste. Avec J'aime Sacré, America Solitude, c'est une somme également de textes qu'il faut connaître et que je vais essayer donc de vous donner le mieux possible. Alors, les publications, d'abord, je reviens sur Gaston Puel, 42 Cervantes pour Jean-Paul, le centre Je Bousquet son temps a édité tous ces textes de Gaston Puel. C'est un très beau livre, très très beau livre, c'est un ouvrage qui est très bien fait, avec un beau papier, une couverture merveilleuse. Illustration de la couverture, c'est le détail d'un collage de Gaston Puel lui-même, et l'effet est très bien réussi. Donc vous aurez d'ailleurs cette impression de la couverture sur notre site lespoètes.fr, dans la page d'accueil où nous appelons à commander ce livre 42 Cervantes pour Jean-Paul. Je pense que c'est un livre historique, hein, de Gaston Puel, les publications de Gaston Puel maintenant. Il faut absolument avoir, pour bien connaître la poésie d'aujourd'hui, il faut avoir ce livre, 42 Cervantes pour Jean-Paul. Donc, édité par le centre Jo Bousquet son temps, 15 euros, que je vous invite à engager pour lire ces textes. Alors, juste un extrait, bien entendu, nous ferons une émission particulière sur ce livre, puisque on ne peut pas en parler en quelques minutes. En ton bleu menteur, fenêtre d'azur, les astres s'éteignent. La nuit, ventre ouvert, spirale en folie, infinies entrailles. La fenêtre ouverte à ce bleu d'oubli que chanta Matisse. Nulle heure ne sonne. Où passent les songes, le temps s'obscurcit. Fenêtre, tanière, lune déchirée, mon âme écolière, proche ou lointain. Le miel ou l'abeille, ma mémoire vaine. Gaston Puel, 42 Cervantes pour Jean-Paul, a commandé au centre Jo Bousquet et son temps de Carcassonne. Et puis, des livraisons encre vive, avec, alors, un très grand plaisir, Annie Brier, Cueillir l'éphémère, les métamorphoses de la neige. Ça constitue le 414e encre vive, donc on imagine quand même le travail que cela représente pour Michel Cozem, toutes ces publications, plus la collection Encre Blanche, plus la collection Lieu. Donc un travail d'éditeur incessant, enivrié, Cueillir l'éphémère, les métamorphoses de la neige. Aujourd'hui, je voudrais qu'il neige dans ma parole. Enivrié a vécu son enfance et son adolescence en Champagne troyenne. Nommé professeur de lettres près de Toulouse, elle entre aussi en poésie. Elle est membre du comité de rédaction d'Encre Vive, où elle a déjà publié 4 recueils, Bruire comme l'arbre, Pierre de patience, Novembre à sa orge, Éveil de feuilles et de racines. Il y a d'autres publications d'Annie Brier en poésie, Dans le cercle des saisons, c'était Pluie d'étoiles, Fresques tressées de fleurs, c'est des amis de la poésie à Bergerac. Arc-en-ciel d'oiseaux, éditions du Rocher. La chair des jours, éditions Soc et Foc. Mira Perpignan, un autre regard. Alors nous avons eu ici le plaisir de réaliser une émission avec Henri Brier. J'espère qu'elle pourra se libérer incessamment pour faire peut-être d'ailleurs une émission sur l'ensemble de son œuvre. C'est quelqu'un qui est très discret, un peu trop peut-être. Donc ce recueil, c'est vraiment un recueil magnifique. Il y a des belles photographies, photographies de neige. Je pense que Claude, je ne lui ai pas montré, mais je vais lui montrer tout à l'heure. Il va reconnaître lui qui nous a, sur notre site lespoètes.fr, nous a fait bénéficier de ces belles photos de neige de chez lui, de sa maison. Là, il y a de très belles photos aussi de paysages de neige, reproduits en noir et blanc, de ce recueil d'Henri Brier, qui est publié, bien sûr, par Michel Cozem, et qui constitue le 414e, disais-je, numéro d'Encre Vive. Encre Vive, dont le numéro vaut 6,10 €. L'abonnement pour 12 volumes, 34 €. Et c'est à commander à Michel Cozem, 2 allées des Allobroges, 31-770 à Colomiers. Un extrait de ce recueil. Paix dans le jardin de neige, près des arbres gantés de blanc. Quelque chose se met à respirer, flotte dans l'air ambiant, envahit la conscience, l'obscur en soi s'allège, s'absente, se délivre, le regard s'émerveille, retrouve son innocence. Il neige du silence, une peau si blanche jusqu'à l'horizon. Le regard cherche dans l'absolue blancheur la brûlure inavouable de l'éternelle pureté. Neige fluide et lourde, comme un corps endormi dans le sommeil du monde. Fourrure qui frôle et caresse et se pose avec des grâces de chat. Insaisissable, énigmatique matière qui descend en paillettes et fait plier les chaînes. Fragile cristaux céleste, sans densité, sans pesanteur. La neige a brodé tout le jour la quiétude du monde, dans la mémoire lisse du blanc, ici et là, éparpillés, de menus flocons semblent battre des aigles, des cides. Il est temps de dormir dans la chambre de neige. Henri Brier, cueillir l'éphémère, c'est un recueil, je dirais, de saison. Hein. C'est la neige, des très belles photographies. Et puis, alors, toujours Encre Vive, le numéro suivant, c'est-à-dire le 415e numéro d'Encre Vive, qui est consacré à un recueil d'Andrea Mourid, ça s'écrit M-2-O-R-H-E-A-D. Andrea Mourid, de souche allemande et normande, qui est née près des chutes de Niagara en 1947. Elle est directrice de la revue internationale bien connue Osiris, qui est la première revue littéraire aux États-Unis à publier la poésie en plusieurs langues sans traduction. Elle a publié Niagara, Le silence nous entoure, La blancheur absolue, Le verre est fragile, Les présences de la terre, Aux écrits des forges. Écrit des Forges, donc éditeur canadien, et De loin, aux éditions de Noirot. Guernica Éditions ont publié ses traductions de la poésie contemporaine, dont The Edge of Light, Hélène Dorion, et Stone Dream, Madeleine Gagnon. C'est une photographe amateur et une naturaliste passionnée. Ses photographies, à Andrea Mourid, ont paru dans de nombreux livres, à Anterem Edizioni en Italie. Vous voyez, donc on est dans l'international, mais là aussi on est sur le continent américain, puisque elle vit donc au Canada. Un extrait donc de Sans miroir, c'est le titre des textes publiés dans ce recueil. Élixir. Sous l'eau volcanique, tes yeux de glacier ne saignent plus. le rouge remplace le vert et toute cette blancheur prête à disparaître, se fige sous le coup de la poudre plutonique des paysages fantômes. Cœur de terre. C'est le soir. Dépose ton violet, ton bleu, tes clochettes devant ce visage, cette blessure du ciel où résonne encore le feu tamisé de ta glissade vers l'inévitable perte de conscience, ton acuité percutante, ton bleu, ton angoisse, soulevée par le spectacle d'une foule incendiée aux prises des malentendus sans fin, sans fable, sans contexte aucun. Andrea Mori, donc, un nom à connaître et une très forte personnalité, donne vraiment envie aussi de faire une émission sur cet auteur. Donc vous voyez, deux numéros d'Encre Vive parus. Donc ce qu'il y a d'intéressant quand même dans cette revue d'Encre Vive, c'est que elle est exclusive sur un auteur. C'est-à-dire que vous avez non pas des fragments comme dans beaucoup de revues, c'est pas du tout une critique, hein, parce que bon, cette revue donne aussi des renseignements, des notes de lecture, il y a un travail extraordinaire qu'ils ont fait par les revues de poésie, hein, en France. Mais Encre Vive vous donne à connaître, je dirais, quasiment quelque chose, une unité. Il y a un recueil. Bon, c'est complet. Quand vous avez un nom, vous lisez Enivrié, bon, mais déjà, on a une bonne idée de l'auteur. De même, Sans miroir d'Andrea Mori, il suffit de lire ça, ça donne envie de lire autre chose d'elle, comme Enivrié d'ailleurs, mais ça donne quand même un aspect suffisant pour avoir l'impression quand même de connaissance de cet auteur. Et puis qu'on est toujours sur Encre Vive, c'est notre ami Christophe Lévis qui nous envoie son dernier recueil dans la collection Encre Blanche d'Encre Vive, où il publie L'Encolure. Alors on va retrouver le même ton, j'en parlerai une autre émission, on va retrouver le même ton que son dernier recueil, L'Oniromance. Voici ce qu'en dit Patrice Maltaverne. Non, les choses ne se laissent pas faire. On aimerait pourtant bien les dompter de temps à autre. Hélas, c'est impossible. L'océan de la liberté n'est le plus souvent qu'un bassin de rétention destiné aux ivrognes, à toutes ces personnes qui ont peur. Encore heureux qu'il reste le bricolage avec la matière. Bricoler, ça ne consiste pas toujours à rendre les choses parfaites, mais simplement à prolonger leur existence. C'est aussi une preuve d'amour, de lucidité par rapport au champ des possibles. Avec les choses qui remplissent son âme, Christophe Lévy oscille entre espoir et dépit. En tout cas, jamais il ne se sépare de ses armes bien concrètes. Voilà. Il oscille entre espoir et dépit, donc ça donne un ton un peu rude, un peu rugueux. Je vous laisse écouter. Donc ce recueil s'appelle L'Encolure, il est toujours dans la collection Encre Blanche, le volume vaut 6,10 €. À ce propos, d'ailleurs, on avait parlé ici de Oniromance de Christophe Lévy, mais je voudrais aussi signaler, il y a beaucoup de noms connus dans cette collection Encre Blanche. Je voudrais signaler un auteur dont nous avons parlé, puisque nous avons fait une émission qui a été consacrée, nous l'avons eu au téléphone, c'est Jean-Louis Guérin-Guévin. Donc, qui publie là un recueil qui s'appelle Carré d'ortie, que je vous recommande également. Vous pouvez d'ailleurs avoir, même Sylvaine Arabeau, le dit des elfes, on en avait parlé. Vous pouvez vous procurer le catalogue de l'ensemble de ces éditions sur notre site, puisqu'il est en ligne. Le catalogue général des éditions Encre Vive est en ligne sur notre site lespoètes.fr. Alors revenons à Christophe Lévy. Au puits, dans ce trou, croissent les lacs profonds. Un arbre de l'autre cercle exact, au feu présent, personne, au moins par ici, où passa un éclair sage par mètre. houspillant le sort pur qui pisse la façon de ce traître, tuit dans l'aine sans odeur, créé adepte d'un foin moelleux, foule une flaque de cheveux, frange sous le passant mort, voire obscur passage, se poudre les jambes en face, vite la joute ovale, assise sombre, une serre, vit à l'envers, outre, la pitié foule sa terre, fou somme de tous enterrés dans le vin mur à queue, maison si jolie, si terne, épandue, les craintes de l'astre sourd, cette peur des vautours, une sentence dure de fait, autre monde senti et viable, vers l'avant, vente cranchée, en marge, il est raide dans l'arrière, puis son vitrail, aime-la, tel rouge pour l'afflux, somme des jours avancés. Voilà, vous avez une idée du ton, c'est un ton donc heurté. Christophe Lévy, L'Encolure, aux éditions Encre Vive, Encre Blanche de Encre Vive. Alors, je crois que je peux maintenant passer à James Sacré. James Sacré, c'est un poète français donc, qui vit près de chez nous, près de notre ami Michel Écart, puisqu'il vit dans la région de Montpellier. Alors, il vit dans la région de Montpellier, mais il n'est pas du tout montpelliérien. Il est montpelliérien d'adoption, mais il a passé son enfance dans une ferme, la ferme de ses parents. C'est en Vendée. En Vendée. Alors, il va être d'abord instituteur, puis il a été instituteur itinérant agricole. Alors, ça, c'est peut-être une profession qui s'est perdue. Nous, on connaît bien les instituteurs itinérants agricoles dans les années 50, en Ariège. Alors, il va partir en 1965. Il est né le 17 mai 1939 à Cougou. Alors, Cougou, c'est un village de Saint-Hilaire-des-Loges, donc en Vendée. Alors, en 65, cet instituteur itinérant agricole va faire une démarche qui est quand même assez étonnante pour l'époque et assez gonflée. Il part en 1965 vivre aux États-Unis, où il va poursuivre là-bas des études de lettres. Il va faire un peu ce qu'avait fait avant lui, 20 ans avant lui, Claude Vigée. Il y enseigne à l'université de Smith's College, dans le Massachusetts. Il fait également de nombreux séjours en France et ailleurs en Europe, alors il va continuer à voyager. Hein. Il a grandi pour poursuivre ses études de lettres aux États-Unis, mais posant ses valises dans le Massachusetts et devenant professeur dans ce collège, il va continuer, et c'est là d'ailleurs la chance des enseignants, c'est d'avoir quand même suffisamment de temps pour avoir un métier qui les fait vivre, sans pour autant se priver de voyage. Il va voyager en France, il va voyager en Italie, il va voyager en Tunisie, il va voyager au Maroc, il va écrire d'ailleurs de très beaux textes sur Marrakech. Et c'est en 1970, c'est-à-dire en 1970, on est en pleine émergence du courant littéraliste, que le jeune poète James Sacré se met à écrire. Alors là, il va être extrêmement prolifique et on peut dire qu'il a été constamment éclectique. Il publie entre 1980 et 2009, il publie plus de 30 recueils. Il y livre une écriture dépouillée et charnelle, vous allez l'écouter cette écriture, où la poésie devient objet de désir, où le mot véhicule le sentiment amoureux, trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire « Je t'aime » en 2006, où le vers s'imprègne des paysages et des odeurs du terroir, par exemple dans son recueil « Paroles du corps à travers ton pays » publié en 2009, aussi simplement qu'il esquisse l'univers du Maghreb, je vous disais, un recueil « Une fin d'après-midi à Marrakech » publié en 1988. Alors il est installé, je vous disais, à Montpellier actuellement, et il ne cesse de remettre son écriture en question à travers ce qu'il appelle lui-même le lyrisme critique. Le poème n'y a vu que des mots. C'est le titre de recueil de James Sacré. Le désir échappe à son poème, les mots longtemps, qu'est-ce que le poème attend ? Sont autant d'ouvrages au fil desquels il anime ses vers d'un corps et d'une âme, interrogeant perpétuellement les rouages de l'expression poétique. Voilà donc pour J'aime sacré. Alors, dans le détail, on peut dire qu'il a consacré une thèse de doctorat au sang dans la poésie maniériste. Donc, un sujet quand même assez particulier, même, comment dirais-je, très, très précis. Hein. C'est donc d'emblée le fait d'avoir choisi quand même cette thèse sur le sang, c'est très charnel ça. C'est donc, vraiment, on parlait de poésie charnelle, mais c'est totalement ce qui va habiter ce poème, ce poète, cette sensualité de la chair qui s'écrit associant étroitement le cœur qui aime et celui qui bat, le cœur qui saigne et celui qui nous fait vivre de sa régulière pulsation. J'aime sacré, très attaché au paysage, très attaché à la géographie. De nombreux textes sont consacrés, je vous disais, au terroir de son enfance, la Vendée. Les motifs centraux en sont la maison, la ferme, le jardin, le village. La mémoire va jouer un rôle important. Tout un travail de rémunération est à l'œuvre afin de rendre le passé aussi vivant que le présent et de les fondre l'un dans l'autre. La poésie de J'aime sacré n'est pas pour autant égocentrée, loin de là. Elle s'ouvre à l'autre, elle l'appelle et elle l'accueille l'autre. Voilà, alors, America Solitude, c'est aux éditions André Dimanche, donc un livre de, je ne sais plus, il y a plus de 340 pages dans ce livre, c'est quand même pas mal. C'est donc une somme dont la seule masse impressionne. Hein. Quand la poésie s'est toujours traditionnellement disséminée en une prolifération de minces recueils, ce que les poètes sont obligés de faire parce que c'est très difficile, en définitive, de publier. Il n'y a plus que ceux qui peuvent bénéficier de l'aide du Centre National du Livre, bien sûr, qui peuvent réussir à publier de gros volumes comme ça. Donc là, parution des 340 pages, je vous disais, de poèmes, ce livre, c'est un événement dont, en termes difficiles pour le livre, il faut saluer André Dimanche, alors il faut saluer l'éditeur d'avoir eu le courage de le publier d'un geste aussi intempestif que nécessaire. Donc vous savez qu'ici, on est toujours à l'affût des éditeurs qui arrivent à diffuser cette poésie contemporaine. Bien entendu, c'est un ouvrage qui a été publié quand même avec le concours du Centre National du Livre. Ne rêvons pas. La couverture est rouge, donc de America Solitude. Et vous êtes prévenus, nous allons en Amérique. Oui, mais dans la solitude de ces espaces déserts ou insignifiants que le touriste traverse sans les voir. Dans cette espèce de infraordinaire dont parle Pérec, qui est la trame même de notre vie. Oui, l'Amérique, dans ses interstices, c'est ce que nous allons écouter ce soir. Mais peut-être, avant de passer à l'Amérique, aux États-Unis, je voudrais revenir à son pays d'adoption maintenant, qui est Montpellier. Des signes qu'on n'attendait pas nous échappent, dit-il. À Montpellier, avant de partir, le hasard déjà fait qu'on est là-bas. À cause d'un film, The World Walks, qui raconte, et c'est pas très bien joué, une histoire de Billy the Kid, lequel se décide mal à choisir entre une femme et un cheval, peut-être aussi Doc. Le soir d'après, à l'hôtel Holiday Inn, 20 minutes par la navette pour être à l'aéroport. Un documentaire sur Sergio Leone. On voit la ruine d'un bâtiment de briques avec le mot Phoenix. L'Arizona rêvait depuis Almeria. Demain, peut-être que l'avion ne partira pas. Lundi de Pentecôte et grève. Personne qui pense au Saint-Esprit. Si pourtant c'est pas lui qui descend par voie de vidéo et de télévision, pour nous rassurer et promettre qu'on verra tout ça quasi pour de vrai en parcourant l'Arizona. Le paysage est soudain comme un visage qu'on rencontre, à cause de presque rien. Un enclos de bois gris pour les bêtes, au fond de l'étendue de pâture sur une pente ou bien quelques cabanes en planche avec un reste de couleur rouge. Il y a eu un moment qu'on passait sur la route, assez par ailleurs dans une campagne largement ouverte sur le ciel, un massif allongé de montagnes d'un seul bloc, une masse rocheuse, claire, striée de rose ou de rouge léger, quelque chose d'offert dans l'étendue de verdure et devant le fond plus sombre d'une vraie chaîne, un reef, avec l'éclat dans la grande luminosité du matin, d'une neige récente. La route a l'air d'aller si désespérément sans fin. La couleur de sagebrush, une sorte d'armoise en touffe et buissons ligneux. Les genévriers sombres, le ciel continué sans couleur. Au loin, la ligne rouille et crée des falaises. Parfois, le rose de la roche, sur une belle longueur horizontale, se trouve pris entre la couleur d'ardoise plombée du ciel bas et celle qui brille, de l'étendue d'herbes et de petits arbrisseaux jusqu'à la paroi du fond. Si l'ombre et la lumière bougent en jeu de coulisses mobiles, le rose devient crayeux, quasi ocre, en de fins triangles qui découpent du clair sur un fond rocheux, sombre, où s'épuisent les mots. On entend le vent dans le bleu du ciel qui vient jusque dans les genévriers puis d'un coup s'en va au-delà des crêtes ou des longues pentes du plateau. Quand la montagne devient rose et s'allie d'une végétation maigre, on pense à la nuque des rednecks, à la présence pas loin de peau rouge. Dans le Nevada, comme au fond d'un ancien western, est-ce que le bleu très fin des eaux du lac Mono et la couleur claire du tuf calcaire, est-ce que cela fait pas comme l'œil de Clint Eastwood avait dedans le vert très vert de quelques arbres? On en retrouve la couleur verte continuant les filons de neige sur des pentes. Le tuf se forme dans les eaux du lac et surgit en sorte de masse de relief à la surface du bleu dans ses bords. On peut imaginer Clint Eastwood rêvant d'un futur décor qui va faire peindre en rouge par ses personnages, pour un film tourné là, comme un saccage, dans les fines couleurs du lac Mono. Sur une toute petite portion de route, entre Walker et Colville, un peu avant Walker, enlongeait le cours très turbulent de la Walker River, je crois. Soudain, là, sur le côté droit de la route, une rangée de peupliers, possible que ce soit des cottonwoods, avec les troncs énormes, comme jamais vus au vent, et le feuillage porté haut, ramassé, dense. L'œil s'en saisit, d'autant mieux qu'on est dans ces espaces de plats ouverts qu'à la région, entre les chaînes sèches de la montagne et de longues pentes comme en velours, à cause du couvert de sagebrush. Le torrent se perd dans un lac, au bord indécis, entre eau et vers de l'herbe, où des bovins sont tranquilles. Une camionnette trapue se reprend dans l'ombre d'un arbre. Le lac topaze, que l'ombre adoucit en léger bleu-gris, l'odeur de l'air dit qu'il a plu quelque part. Un bruit de tonnerre se mêle à la sécheresse du paysage. On vient de monter un peu au-delà de l'Antelope Valley. C'est dans une région avec pas mal d'arbres, surprenant. Les séquoias de Yosemite, pas loin, et les Bristlecone Pine Trees, qui ont peut-être 5000 ans d'âge. Dans les White Mountains, comme un tonnerre silencieux du temps, une pluie qu'on n'aura pas vue. À l'étape, l'aire du camping, entouré par les montagnes dans la distance et plus près par tout un complexe de routes qui fait la rumeur du paysage. Le ciel s'est enflammé de rouge profond, pris dans le bleu sombre des nuées, et de grands morceaux de couleurs claires. Et parce qu'aussi de beaux feuillages bougent, on se croirait dans un tableau de Poussin. Je pense à de la prose que pourrait écrire Yves Bonnefoy, qui a vécu en ces espaces des États-Unis. Ce soir, quelque chose qui me rappelle quand il m'a reçu où il habitait à Cambridge, près de Boston, une grande maison, prise en des couleurs de briques et de feuillages. Et mon plaisir de maintenant, je pense à Desbord de Valmore, dont justement Bonnefoy a su parler. Année tout enflammée. Sur une route qui va vers la montagne, voilà, c'est en plein dans les champs, rangés de trembles ou des bouleaux. Le blanc des branches dans le feuillage tendre, la neige de la montagne au loin y brille aussi. Un peu de foin sèche sur le vert moelleux du pré, et dans son extrémité qui touche à la route, tout un étalage de choses. Vie de grenier, celle pour des chevaux, ustensibles, Griswold, en fonte pour cuire de petits morceaux de pommes mêlés à de la pâte, etc. L'herbe épaisse, le grand air large et la douceur du temps. Et quelques voix avec, sur des pâtis proches, ou l'eau à fleurs du bétail fauve. On voit des entrées de ranches, trois perches, et un découpage en tôle sur celle du dessus qui ouvre sur de vastes domaines d'herbes. ou Ré, où la montagne est violette et bleue comme écrite à l'encre. Le ciel propre avait de grands buvards de nuages. Quelques écorchures de rouge encore dans la montagne, après Durango, puis les sommets plus gris et des caresses de neige. Au-dessus de la forêt des Trembles, leurs troncs dressés, serrés d'argent clair, confirment qu'on monte à Silverton, vers l'école. Molas passe 10 899 pieds. C'est un étroit plateau de pentes et pâtures, avec le vert sombre des sapins, de belles taches d'eau, et le mélange neige et vert tout autour, quelques tremblent toujours, jusqu'à ce point de passage du col, on est dans une fraîcheur de l'espace, pâture et le ciel bleu au large. On a fait l'amour longtemps. Le temps plus entier est présent. Geste emporté, mesuré à la fin, qui se défait en même temps que tout viendrait. Plus tard, on entend de longs miaulements et des sirènes de voitures de police précipitées dans la violence. J'aime sacré dans les solitudes américaines. Le roulement des camions dans la solitude à Holbrook. On dirait que tous les camions du pays passent à Holbrook. On les entend venir de très loin, puis qui s'en vont longtemps. Leur avancée monte en grande énergie vers le plateau. Au-delà, c'est jusqu'à Chicago, où leur descente commence retenant, direction Los Angeles. Les voilà, à Holbrook, que probablement c'est à peine si s'en aperçoivent, sauf de voir, à la nuit venue, l'ensemble des feux et les habituels néons publicitaires, pour on ne sait pas trop. C'est quelle vie, Holbrook? Pendant que tous ces camions tirent après eux l'énorme rumination de commerce et de consommation qu'est ce pays. Une longue ligne droite sur le plateau mal garni d'herbes et les premières tables de pierre rouge avant d'arriver à Holbrook. Tout le roulement des camions continue. 5h20 du matin, café chaud, dans la fraîcheur du soleil qui vient, continue, comme pendant la nuit, comme hier, comme il y a des années. Quelques jours à Holbrook, à cet endroit d'un camping, pas loin de l'autoroute et dans ce que fait le monde en un pays qui s'imagine en être le moteur, continu mouvement d'énergie pour installer cette circulation partout des camions, on n'entendra bientôt plus rien d'autre. À Holbrook, ou partout, mais juste à côté quand même, c'est un silence autrement plus énorme et de plus loin continuer. Le monde pétrifié en d'anciennes forêts couchées, la poussière et le vent dans les territoires indiens. Un roulement de rien. Mmh. La route 66, comme un ruban déchiré, à cause de son usure qui s'entortille autour de l'Interstate 40. De son tissu, il reste pris, souvent presque rien, un café, une ancienne station-service, un magasin qui vend de la pacotille pour touristes ou clients religieux patriotes du coin, par exemple des croix, avec noué dessus les couleurs du drapeau américain. Tu prends un root beer à Holbrook. Pour moi, un chocolat chaud. On arrive de chez le seul antiquaire de la ville. Pas loin de l'ancienne gare où les trains ne s'arrêtent plus, pas plus que les voitures ni les camions ne passent par la Main Street depuis qu'il y a la 40. Un ancien prof, l'antiquaire. Prof. Avec des gars durs du coin. Le verbe fort et convivial. Petit Creamers à motif adobe de la Santa Fe Railroad Company que j'ai trouvé là. L'antiquaire me les enveloppe avec précaution dans du papier journal. Long voyage qu'il dit jusqu'en France. En France, d'où son père ramenait plein de livres. Bientôt, les voilà tous vendus. Mais Zola, Rousseau sont encore sur des étagères qui s'affaissent. Et une petite anthologie de poèmes. Tout ça tourne en vieillerie vivante, autant que les pales des ventilateurs. De ce A and W Resto, sa machine à Real Draft Root Beer, et All American Food, au rythme d'une musique d'ancien rock. Mon chocolat chaud, dans son gobelet en polystyrène blanc. Holbrook, Holbrook, morte et vivante, parmi ses reliques de la route 66 et son désordre de commerce qui vont pas fort. J'aime sacré. Et puis la main reprend son ouvrage. J'aimerais savoir écrire des poèmes comme les gens de Chaco savaient construire les murs de leur maison-village, savoir mettre dans un bel ordre vivant, rien de mécanique, des couches de mots minces et fragiles que viendraient tenir de longues lignes de pierre plus larges mais taillées dans une même façon de beau volume, agréables à la main. J'aurais évidemment beaucoup de difficultés pour les couleurs, pour trouver les mots de couleur qui conviendraient, des rouges un peu brûlés, des gris légèrement verts, beaucoup de cette couleur plus claire entre blanc sale et brique à peine ocre. Et comment dire, il suffit d'une lumière très forte vers 14 ou 15 heures et c'est du sombre qui écabousse les yeux. Un poème est-il un problème d'architecture et de couleur à résoudre? Me voilà une table mise entre des rochers, en pied de la falaise du plateau, canyon du Chaco. Le silence. On n'entend que des bruits domestiques que font d'autres campeurs. Quelques oiseaux, celui-là gris, à tête rousse, et le dessous de la queue aussi, courant jusqu'à ma table, un canyon, Choué, Pipilo, Fuscus. En voilà des mots. Sont-ils assez bien taillés, assez solidement mis, tenus? Les gens de Chaco, je crois, couvraient ensuite leurs murs d'une sorte d'enduit. On ne voyait plus tout le savoir-faire de leur maison. Si je tourne la page du cahier, c'est tout mon poème qu'on ne verra plus. Le Towi aussi a disparu. J'aime sacré America Solitude. André Dimanche, éditeur. Le 7 février, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, la semaine prochaine déjà, nous recevrons Michel Cozem et nous verrons que là, par exemple, J'aime sacré a écrit sur les lieux. Je trouve que ces lieux sont les lieux de cet immense territoire que sont les États-Unis et qui, dans cette immensité, prête effectivement à cette extraordinaire solitude d'ailleurs que l'on peut mettre au pluriel. Eh bien, la semaine prochaine, avec Michel Cozem, nous aurons le plaisir aussi d'avoir un poète du lieu qui nous parlera de ses voyages, de ces lieux qu'il a traversés et de ses poèmes qui transgressent tous les lieux, comme l'a fait J'aime sacré pour les États-Unis. Voilà. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée à l'écoute de Radio Citanio et de Racine la Terre qui va suivre avec ses rythmes endiablés. Et puis, nous vous disons à la semaine prochaine, à Dichast.